Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce débat des grandes voix historiques d'Europe 1. Gérard Carrérou est absent ce matin, on le salue, mais ses trois comparses sont là. Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Ce matin, on respire.
Nous allons lever l'obligation générale du port du masque en extérieur. Mes chers concitoyens, je le dis, je le ressens, nous vivons un moment important, un moment heureux de retour à une forme de vie normale.
Fin du port du masque en extérieur, levée du couvre-feu à partir de demain, tous les indicateurs au vert. Mais attention à ne pas se réjouir trop vite, l'épidémie peut revenir, préviennent les épidémiologistes. Des indicateurs au vert, c'est bon pour le moral, bon aussi pour Emmanuel Macron. On a beaucoup vu le chef de l'État sur le terrain cette semaine.
Je n'interfère pas dans cette campagne, je continue simplement le travail pour la nation et nos compatriotes.
Emmanuel Macron est-il en campagne déguisée? Comme le disait cette semaine sur Europe 1 Jérôme Fourquet, l'élection reine en France reste la présidentielle. Et puis, première tournée pour Joe Biden en Europe cette semaine et un tête-à-tête très attendu avec Vladimir Poutine.
Je ne pense pas qu'il cherche une guerre froide avec les États-Unis. Ce n'est clairement dans l'intérêt de personne.
Biden et la Russie, Biden et la Chine, Biden et les Européens. Nous verrons quel bilan on peut tirer de cette première tournée sur le vieux continent du président américain. Voilà pour le programme. Installez-vous confortablement. Le débat des grandes voix, c'est parti. Faut bien le dire, c'est un bout de tissu qui sauve des vies depuis plus d'un an, mais qui, en même temps, nous la gâche. Le masque n'est plus obligatoire en extérieur depuis jeudi. Les grandes voix, est-ce que vous considérez comme le Premier ministre que nous vivons enfin un moment heureux?
Oui. c'est la fin de l'assignation à résidence. C'est quand même important. Et le retour à une vie presque normale, c'est ce que vient de dire le Premier ministre.
Absolument.
Il faut le croire.
On le vit, vous le vivez, vous le ressentez comme ça aussi, Catherine Ney, Michel Cotta?
Moi, je le vis parce qu'il faisait tellement chaud ces jours-ci que j'ai tout fait. Alors, c'est vrai que c'est une libération. Mais je vois que le Premier ministre qui vient d'annoncer la fin du port du masque vient de rester 8 jours à l'arrêt parce que sa femme était positive. Et que, vous voyez, donc, il nous montre aussi qu'un drame peut survenir, que l'épidémie peut repartir. Mais moi, je crois que le masque qu'on abandonne avec plaisir parce qu'il fait chaud va devenir et va demeurer un geste social.
On le voit d'ailleurs.
On le voit d'ailleurs déjà dans la rue. Les gens, vous avez le droit de l'enlever, mais il y en a qui le gardent. Donc parce qu'aujourd'hui, le fait de dire vous pouvez l'enlever, la liberté, c'est de le garder. Vous voyez, c'est ça. Les Français peuvent le garder. C'est ça qui est intéressant. Et moi, on le regrette aussi parce que c'est drôlement pratique un masque. Vous voyez, quand on sort le matin. On a une petite mine, on a l'œil poché, ça préserve. Et ça préserve de l'autre aussi. Parce qu'avec le virus, on s'aperçoit que l'autre est un danger, que peut-être lui, il est contaminant. Donc le masque, avec le masque, on n'embrasse plus. Et maintenant qu'on enlève le masque, on n'a plus envie d'embrasser forcément. Et on est content.
Oui, c'est la fin de la bise.
C'est la fin de la bise obligatoire, ce geste social, les artistes qui s'embrassent, les politiques. Vous voyez
Tout le monde s'embrasse maintenant, même les hommes.
Oui, donc peut-être que ça. Mais en tous les cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'admettons que le Covid, il n'y ait plus d'épée, eh bien, chaque hiver, quand on dira une épidémie de grippe arrive, eh bien, on mettra un masque sans avoir l'air idiot. Et on se lavera les mains, parce que s'il y a eu moins
De grippe et de
gastro, c'est qu'on se lave plus les mains. Donc voilà, ça nous aura éduqués pour
un peu plus d'hygiène. L'Asie nous aura donc montré l'usage, parce que depuis des années, avant même le Covid, tous les Chinois et les Japonais abordent l'hiver en étant masqués. Et masqués très étroitement d'ailleurs, et peut-être plus étroitement que nous le sommes nous-mêmes, parce qu'ils fixent ça très... Alors moi, je pense que c'est des jours heureux, mais peut-être que je suis pessimiste, mais j'attends quand même le déroulement de l'été.
Oui, non, je suis d'accord avec Michel.
Il faut se dire que l'année dernière, à la même époque, tout le monde était très content. On ne pouvait pas voyager, pas d'avion, etc. Mais enfin, tout le monde était très content. Et que quand même, le chiffre, on a vu le chiffre décliner aussi, mais on a vu le chiffre remonter. Oui. Et les variants, alors on va parler à la
On va y revenir sur les variants, mais juste Charles Villeneuve, on a vu aussi entendu le président de la République hier soir, aux côtés d'Angela Merkel, mettre en garde contre un retour de la pandémie et appeler à la vigilance.
Ça flambe en Allemagne.
Parce qu'il reste d'ailleurs de tout ce que viennent de dire mes deux consoeurs, et néanmoins amis,
Merci.
C'est qu'il reste une incertitude majeure, quand même. Savoir si les variants ne vont pas gâcher la fête, et notamment le variant Delta qui nous vient du Gange.
Le variant indien.
Qui perturbe la vie des Anglais, qui sont pourtant à près de 60% vaccinés, et des Russes, et puis qui fait poser des questions aux Portugais, notamment autour de la capitale, Lisbonne, puisqu'il y a des clusters qui apparaissent avec ce fameux variant. Alors, est-ce que l'épidémie recule durablement? C'est ce que tu disais, d'ailleurs, Michel. Ou n'est-ce qu'un entracte d'été? Alors, on a quand même une assurance, c'est que la France s'y est mise sur la vaccination et elle s'impose pas mal. Il y a beaucoup de doses.
Mais vous le disiez justement, Charles, la vaccination, elle est très haute au Royaume-Uni, plus de 60%. Et pourtant, le variant indien est présent à 90% et il est beaucoup plus contagieux et les cas repartent et repartent.
Pardon, techniquement, il y a une différence avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, c'est que les doses ont été beaucoup plus séparées. Les doses ont été beaucoup plus séparées que les nôtres, puisqu'ils ont été séparés de 2-3 mois. Et finalement, donc,
alors que nous, c'est une moyenne de 3 semaines, voilà, 4 semaines.
Là, il y a une grande partie des gens qui ne sont vaccinés qu'une fois.
Et vous avez raison, Michel, sachant qu'en effet, les spécialistes disent qu'a priori, les vaccins sont valides contre le variant indien, mais uniquement après 2 doses.
Voilà. Mais enfin, moi, je pense que cette crainte qu'on peut avoir pose le problème de la vaccination. Est-ce qu'elle doit être obligatoire ou pas? Bon, maintenant, en Chine, où on ne connaît pas d'ailleurs les qualités du vaccin, elle est quasi obligatoire sans le dire, puisque vous ne pouvez plus aller dans des magasins, à l'hôtel, au restaurant si vous n'êtes pas vacciné. Ceux qui sont vaccinés ont un cadeau, un savon, voyez. Et ceux qui vaccinent, une boîte d'œufs. Voyez, donc on a
traqué. Oui.
Bon. En tous les cas, il y a un milliard de Chinois ont été vaccinés. Mais comme ils sont déjà plus d'un milliard, ça veut dire qu'il y a une dose seulement qui est donnée. Voyez.
Vaccination obligatoire, vous disiez, Catherine. Oui. On a entendu cette semaine Olivier Véran, le ministre de la Santé, dire qu'il faudrait rendre obligatoire la vaccination, en tous les cas pour les soignants dans les EHPAD, Charles Villeneuve.
Moi, je pense que c'est un impératif de santé publique. Parce que c'est plus important que les pudeurs de gazelle qu'on voit apparaître, notamment chez les soignants, dans les EHPAD en plus. C'est ma plus grande surprise. Oui. C'est que les soignants qui sont les plus récalcitrants sont dans les EHPAD. Et c'est là où, justement, il y a la population la plus fragile. C'est invraisemblable.
Mais de toute façon, elle sera. Il y a des vaccinations obligatoires en France. C'est pas.
On a des variole, le tétanos, la polio,
onze
désormais.
Voilà, 11 vaccins. Alors, je sais que ça avait fait du bruit. Je sais que ça avait fait du bruit quand on était passé à 11. Enfin, les gens sont passés à 11.
Et ben,
passons
à 12.
J'arrive pas à comprendre comment il n'y a pas une obligation de vaccination, puisqu'il faut atteindre donc le maximum de gens pour arriver à enrayer l'économie, et enrayer la maladie, et pas seulement en France d'ailleurs, dans le monde, ce qui va nous poser d'autres problèmes. Mais en tout cas, je ne comprends pas comment on ne rend pas obligatoire une vaccination de ce genre.
Alors,
vaccination...
dans les EHPAD, on demande aux visiteurs qui viennent voir leur famille s'ils sont vaccinés. C'est obligatoire, si vous voulez rendre visite à un patient ou un parent qui est dans l'EHPAD, il faut être vacciné et on ne l'exige pas de ceux qui les soignent. C'est incompréhensible.
Alors, il y a une autre manière aussi d'imposer la vaccination, c'est le pass sanitaire. Si on rend obligatoire le pass sanitaire pour aller dans un certain nombre de lieux, ne serait-ce que les restaurants, les cinémas, ça imposera la vaccination.
Alors, vaccination obligatoire, stratégie vaccinale d'Emmanuel Macron qui a été fortement décriée fut un temps et aujourd'hui, est-ce qu'il a réussi son pari politique? Eh bien, je vous propose de continuer à en débattre juste après une première pause. A tout de suite.